C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Nadine et notre invité de la semaine, le pasteur Sosten Makita. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Evelyne, bonjour pasteur Sosten.
Ça va?
Ça va, on a été bien bénis par l'émission d'hier, c'était très très intéressant et on va continuer aujourd'hui. Je le rappelle, tu es le pasteur de l'église en action d'Argenteuil. En France,
j'ai pas précisé ça. En région parisienne.
Voilà, faut quand même le dire, en région parisienne, effectivement. Argenteuil, c'est où, nord?
Nord, légèrement nord-ouest, okay. Si tu te penches un petit peu. c'est la troisième ville de la région parisienne.
Ah 100, oui, quand
ouais,
même.
120 000 habitants quand même.
Eh, quand même.
Très étendue.
Une grande ville. Bon, ouais. Bah voilà, bah, vous le savez. L'église est située là, si vous voulez aller les visiter.
En face de la gare.
En face de
la
gare. En plus ouais, ça, c'est génial.
Ah, aucune excuse.
Ah ouais, aucune excuse, effectivement. Eh bien, aujourd'hui, Sosten, tu vas faire une rubrique couple et relations. Tu vas nous parler de trois verbes autour d'un mariage qui dure.
Ouais. Quand on veut, quand par exemple tu achètes une voiture et que tu veux que cette voiture, quand elle tombe en panne, soit bien réparée, le meilleur réparateur, c'est le constructeur, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et ben, de la même manière, Dieu est l'auteur du mariage. Quand notre mariage passe par des difficultés, le mieux, c'est d'aller voir Dieu. Et quand on va voir Dieu, il nous explique un mariage qui dure, repose sur trois verbes, quitter, s'attacher, devenir. Okay. C'est ce qu'on va voir.
Super, t'as des intros, hein. Moi j'aime les intros de Sosten, il fait ça bien, Frank, prends-en de la graine. Alors aujourd'hui on va voir que nous sommes nés pour réussir à la fois dans le mariage mais dans notre vie aussi. Et on commence avec toi Nadine dans la pensée du jour.
Tu es né pour réussir. J'aime le thème de cette émission parce que c'est une vérité, c'est une déclaration qu'on déclare sur vos vies, que je déclare sur ta vie. Et c'est une vérité, ce n'est pas tout simplement un slogan, c'est basé sur la parole de Dieu. Parce que hier, le pasteur Sosten a parlé du fait qu'on est créé à l'image de Dieu, on est créé à l'image d'un Dieu qui réussit tout ce qu'il a fait, il n'a jamais échoué. Et de la même manière, nous, en tant que ses enfants, nous n'échouerons pas si nous appliquons les principes de la parole de Dieu. Et j'aimerais par cette pensée t'encourager au fait que tu es né pour réussir. La Bible va montrer à travers différents hommes de Dieu dans la parole comment le Seigneur était avec eux, comment ils ont réussi. Dans Deutéronome 28, il va parler, le Seigneur va donner un cadre dans lequel si nous mettons en pratique les points, les préceptes, les indications qu'il nous donne, nous allons réussir. Et dans Josué également, la Bible va montrer à Josué, alors que Josué va reprendre après Moïse, il est craintif. Il y a tellement de choses à faire, il y a tout un peuple à diriger et Dieu va lui dire, voilà ce que tu dois faire. Si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, voilà, tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et la Bible dit dans Proverbes, je vous partage ce verset dans la version Semeur, Proverbes 21 au verset 5, les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Les projets d'un homme actif. Et là, c'est là que j'amène mon point. C'est que tu es né pour réussir, mais c'est pas en t'asseyant tout simplement, en croisant les bras, mais c'est aussi toi en mettant ta force, en mettant ton énergie, en mettant ton intelligence à faire des choses, en avançant avec persévérance et avec détermination. Ça, c'est deux points que c'est important de se saisir et de mettre en pratique. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, on peut être passif, on attend, oui, je suis la tête et non la queue, je suis devant et non derrière, mais ça, on reste passif par rapport à ça en pensant que la réussite va arriver de soi-même. Oui, la réussite est notre partage parce que nous sommes enfants de Dieu, mais de notre côté, Dieu s'attend à ce que nous puissions faire des choses. Et la Bible va montrer comment s'appelle David. Il va dire qu'il avait réussi. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Comment Néhémie a dit la bonne main de l'Éternel est sur moi. Et Néhémie a réussi à rebâtir la muraille. Comment les apôtres ont été envoyés et ils ont réussi dans leur mission. Oui, Dieu était avec eux. Jésus leur avait donné son esprit, leur avait donné son approbation. Mais ils ont dû marcher. Ils ont dû parler à des gens. Ils ont dû aller à des endroits pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire. Et j'aimerais t'inviter alors que nous sommes dans cette année et peut-être que l'année passée, peut-être que les années précédentes, tu as fait des projets et ces projets n'ont pas vu le jour. Peut-être ces projets se sont arrêtés en cours de chemin. Mais j'aimerais te dire que tu es né pour réussir et j'aimerais t'encourager à la persévérance et à la détermination, à continuer à essayer, à continuer à avancer, à mettre en pratique des choses, à mettre sur place des choses qui vont t'aider à avancer, à demander au Seigneur, « Seigneur, tu m'as créé pour réussir, je ne suis pas maudit, la malédiction n'est pas mon partage. Alors que je suis en train de faire ce projet, alors que je suis dans cette entreprise, alors que je suis dans ce mariage, donne-moi les outils, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir réussir parce que la réussite est mon partage. » Et certains d'entre vous avez tout simplement besoin de retourner encore, de retourner encore, de retourner encore, de vous acharner, entre guillemets, de vous atteler à faire ce que vous avez à faire, de garder la détermination et la persévérance. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas être passif, à ne pas être négligent, à ne pas être nonchalant. La facilité, des fois, n'est pas toujours ce qui nous aide. C'est être capable de dire, je vais continuer à avancer, je vais m'atteler à faire ce que j'ai à faire parce que je suis née pour réussir.
Yes, amen. Merci Nadine pour ces super encourageantes. Et quand je t'écoute, je me dis, on voit clairement qu'il y a la part de l'homme dans la réussite et la part de Dieu. Et en fait, les deux vont de pair. Tu peux pas juste faire ta part et ne pas compter sur Dieu, mais tu peux pas juste attendre, comme tu dis, les bras croisés. En fait, le succès, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un sacrifice, le fruit aussi d'une foi mise en action, d'une obéissance dans certains cas, d'un prix payé à plusieurs niveaux et d'un travail aussi. Mm-hmm. Forcément, le hasard te tombe pas dessus un matin comme le succès ne te tombe pas dessus un matin comme ça au réveil. Et Josué 1:7, tu la cité dans ta pensée, c'est notre verset du jour. Alors, ce sont les conseils de Dieu à Josué pour réussir. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En fait, Dieu la donne à Moïse un espèce de kit de réussite pour accomplir les choses qu'il doit faire. On sait que Josué a une mission énorme sur ses épaules. Il doit faire rentrer Israël dans Canaan. C'est quand même pas rien comme mission. Et Dieu lui va lui donner des directives qui lui assurent la réussite dans toutes ces entreprises. C'est fort quand même. C'est pas, bon, là, ça, tu vas le réussir parce que c'est juste ça que tu dois faire. Non. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que Dieu sera avec lui. Mm-hmm. Mais Moïse doit se fortifier, doit prendre courage parce que dans la mission qu'il a, il va devoir aller affronter des grosses armées et il doit être fort et courageux et il doit fortifier le peuple. Et en fait, en fonction de ce que Dieu nous appelle à faire, du domaine dans lequel Dieu veut nous faire réussir, on a des choses qu'on va devoir mettre en place nous-mêmes qui ont lien, qui sont liées directement à cette mission, à cet appel, et Dieu nous assure la réussite.
Ouais, ce passage est intéressant, le passage de Josué, parce que Dieu va dire à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied. C'est-à-dire que Dieu donne comme un principe, il dit, tu vas réussir, mais il faut que ton pied foule ce lieu. Donc c'est très important. Et quand on voit par la suite, parmi les personnes qui ont vraiment pris leur territoire, parce que quand Josué va rentrer, on va se rendre compte que toutes les tribus d'Israël ne vont pas réellement rentrer dans leur territoire. Et ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui ont compris ce principe-là et qui vont aller prendre leur part. Et parmi ces personnes, on a un certain Caleb. Caleb, quelques années plus tard, lorsque il y a eu un jugement de Dieu, on est presque quoi, 40 ans plus tard, et Caleb vient voir Josué et dit, écoute, voilà, Dieu avait promis que j'aurai ce territoire-là, j'ai la même force là, je veux prendre ma part, viens, donnez-moi des hommes et on va prendre. Et il va aller, il va prendre sa part.
C'est vrai.
Et ça, c'est pour dire que la bénédiction de Dieu, c'est comme un principe, là, une grâce qu'il met sur nous, mais c'est quelque chose que nous devons aller chercher. Et on le voit même, pour terminer là-dessus, avec un roi, Joas, qui va voir le prophète Élisée, et qui va avant, parce qu'il sait que Élisée va bientôt mourir, etc. Et il va demander comme que Élisée vraiment lui fasse grâce, quoi. Élisée va lui dire, bah, prends des flèches, prends un arc, et tire en telle direction. Et avant qu'il tire, il pose sa main sur la main d'Élisée. Élisée, il tire, il dit, tu vois, là, tu tires, et ben c'est la victoire que Dieu va te donner. Après, il lui dit encore, reprends des flèches et il tire au sol. Et il tira que trois fois et il va se fâcher pour dire que bah, tu aurais dû prendre plus. Tu as
vu trop petit.
Voilà, tu as vu trop petit. Dieu va te bénir, mais il fallait que tu te donnes les moyens de le prendre. Et quand on regarde, en fait, on se rend compte que Élisée ne va tirer que trois fois parce qu'il va se fatiguer, en fait. Il va se fatiguer. Et il va pas, et donc à partir de là, il va se fermer quelque part à la destinée que Dieu avait pour lui, alors que le principe était donné. Donc il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à chercher. Et moi, j'encourage même, quand j'étais jeune, là, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, parce que j'avais compris que Dieu était avec moi, même quand j'allais dans les entretiens d'embauche, eh ben, je disais, Seigneur, je vais dans cet entretien, tu es avec moi, etc. Parce que tu... Voilà, j'ai pas peur, parce que tu es avec moi. Donc c'est un état d'esprit aussi qu'il faut intégrer dans son mental, quoi, dans son mindset.
Exact. Voilà.
Wow. Absolument, c'est vraiment, vous avez raison, c'est une mentalité. Et la Bible va dire à tes résolutions répondra le succès.
Ouais,
et c'est une mentalité qu'on doit avoir. Ouais. Des fois, on sait que Dieu est avec nous, mais après l'action, on a du mal à la poser. Et tout est dans la parole de Dieu, en fait. Et je crois qu'on parle de succès, on parle de réussite. Ça peut être pour un parent, la réussite de l'éducation de ses enfants. Ça peut être pour quelqu'un qui veut rentrer sur le marché du travail, un peu comme l'exemple que tu donnais. Ça peut être pour le ministère. Tout se retrouve dans la parole. C'est question d'abord de savoir que Dieu est avec moi. C'est question de savoir le conseil divin que Dieu me donne par rapport à ce que je dois faire. Et c'est question de poser l'acte. Ouais. Tu parles du travail, il y a des personnes, il y a des emplois qui n'osent même pas envoyer leur CV à cet endroit-là en se disant « Ah, ça a l'air trop... » Non, Dieu est avec toi. Et Seigneur, non, tu ouvres les portes devant moi. Je vais envoyer ce CV à cet endroit-là. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu conduis mes pas. Et ça, c'est vraiment important. Des fois, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on se limite, en fait. Et la Bible va dire dans Ésaïe, élargis l'espace de ta tente.
Oui.
Et je crois qu'on est dans une saison, on est dans une année, et pour certaines personnes, c'est le temps d'élargir. C'est le temps de dire, OK, je sais que Dieu est avec moi, Dieu est avec toi depuis tout ce temps-là.
Ouais.
Mais pourquoi il y a des choses qui ne sont pas passées? Peut-être que toi, tu n'as pas posé le pas, et aujourd'hui, c'est le jour de te décider de dire, je pose le pas. J'envoie ce CV, je renouvelle ma mentalité par rapport à la façon dont j'éduque mes enfants, je renouvelle ma mentalité par rapport à la façon dont je gère mon couple, mais quoi qu'il en soit, le succès sera mon partage.
Je pense que c'est même important de rappeler que quand Romains 8, 28 dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », c'est aussi pour encourager, dire aux gens, il y a des fois, vous savez, vous avez conscience que Dieu veut vraiment vous faire réussir, mais il y a des fois, le cheminement est aussi souvent ponctué de petits échecs.
Mm-hmm.
Mais il faut garder à l'esprit que toutes choses concourent à mon bien.
Yeah.
Même ces petits échecs-là sont là pour contribuer à mon bien.
Mm-hmm.
Mais parfois, on regarde sa vie comme dans un film, on regarde juste un épisode, alors qu'il faut regarder toute la saison. Et Dieu est en train de préparer toute une saison, quoi. Et pour moi, c'est quelque chose d'important de se dire que, par exemple, je vais à cet entretien. Eh ben, Seigneur, je vais parce que je sais que tu vas me faire réussir. Mais si ça marche pas là, ben, c'est pas grave, je ne me décourage pas. Ça veut tout simplement dire, Seigneur, c'est pas ce qui est fait pour moi. Tu as quelque chose d'autre. Et ça nous permet aussi d'aller dans des entretiens, d'affronter des situations avec paix, quoi. Ça, c'est vraiment fondamental. Nous sommes condamnés à être bénis.
En Amen.
C'est une grande vérité. Nous sommes condamnés à être bénis en Jésus.
Amen. Ça me rappelle, moi, justement, quand tu parles du parcours, des échecs, et je me suis rendu compte, c'était hier ou avant-hier, je me suis fait la réflexion que même dans les emplois que j'ai eus, des moments où je me disais, ben, cet emploi, il me sert à quoi? Mais en fait, j'ai appris.
Exact.
Et tu te rends compte, c'est quand tu regardes en arrière que tu te rends compte que tu as appris.
Ouais.
Tu vois, je parlais avec un jeune qui disait, mais là, l'école, ça sert à rien. Et tout ça, j'ai dit, mais même ce que tu fais en ce moment, peut-être le cours de géo, dans 20 ans, ça servira à rien.
Ouais.
Mais t'apprends quelque chose, en fait, c'est en train de te formater, c'est en train d'ouvrir ton intelligence, c'est en train de t'apprendre à regarder les choses d'une certaine manière. Et quand on a la mentalité de tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, sont appelés selon ses desseins, ça nous aide, en fait. Ça nous aide à ne pas murmurer dans la saison dans laquelle on est.
Ouais.
Et ça nous aide de comprendre que cette saison ici est en train de concourir à ma réussite.
Ben oui.
Elle est en train de concourir à une réussite qui sera dans un temps peut-être très court, mais elle est en train de concourir, ça me permet de ne pas murmurer, de l'apprécier et de savoir que Dieu est avec moi sur le long du chemin.
Amen, amen.
Dieu nous veut du bien.
Amen.
Dieu nous veut du bien,
amen.
Très important.
On a envie de se lever et de passer à l'action. Et s'il y a un domaine dans lequel on veut réussir dans la vie, c'est bien le mariage, parce que ça nous accompagne vraiment tout au long de notre vie.
Mm-hmm.
Alors, Sosten, on enchaîne avec toi pour notre rubrique Couple et Relations.
Qui n'a pas rêvé de réussir, et notamment dans le domaine du mariage? Certains, justement, ils ont du mal à rentrer dans la relation parce qu'ils ont vu des échecs autour d'eux et n'osent pas aller dans le mariage parce que les parents n'ont pas été des modèles, autour d'eux, il n'y a pas eu des modèles. Et pourtant, il y a une aspiration à être aimé et à réussir cette relation qui est importante, qui est le mariage. Et ça fait plus de 25 ans, j'ai eu à célébrer les mariages. Et je rappelais toujours et j'ai découvert des principes qu'il nous faut parfois tenir compte pour réellement réussir. Je disais tout à l'heure que c'est comme lorsque vous avez un véhicule qui est en panne, le meilleur réparateur, c'est le fabricant.
Mm-hmm.
Eh ben, le mariage, le texte biblique nous dit, Dieu en est l'auteur. Il est dit, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. On a l'impression ici comme d'un cortège, comme dans un mariage quand on rentre à l'église, ben, Dieu il amène Ève vers Adam. Mm-hmm. Donc Dieu est l'auteur du mariage. Et si nous voulons véritablement un mariage qui réussit, nous avons besoin d'aller dans la parole de Dieu. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons en fait qu'un mariage qui dure, repose autour de 5 verbes. 5 verbes dans... Pardon. 3 verbes. Ah oui, 3 verbes.
Nadine, elle commençait à transpirer.
3 verbes autour d'un mariage qui dure. 3 verbes autour d'un mariage qui dure. Et cela nous est rapporté dans Genèse 2, 24. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'un. Ce verset est fondamental, primordial pour vraiment rentrer dans un mariage qui dure. Parce que dans ce verset, il nous est dit que un mariage dans le cœur de Dieu, selon Dieu, un mariage qui tient, eh ben, doit reposer sur ces 3 verbes-là. Quitter, s'attacher et devenir. Tout d'abord, quitter. Lorsqu'on quitte, lorsqu'on se marie, on quitte toujours quelque chose. On quitte le célibat déjà, hein, quand on était célibataire, on vivait sa vie, on faisait comme on voulait, on rentrait à la maison, on jetait les paires de chaussures comme ça, on rangeait pas les choses qu'on avait mangées la veille, voilà. En gros, les célibataires, là je dis pour les mariés, peut-être vous direz, ah, pasteur, si tu savais.
Je dirais, mais, messieurs, peut-être pas mesdames.
Bref. Et donc, maintenant que, quand vous vous mariez, vous êtes obligé de quitter cela. Mm-hmm. Et l'un des problèmes dans le mariage, c'est que souvent, nous voulons à la fois le mariage et tout en gardant aussi les prérogatives du célibat. Mm-hmm. Nous voulons aussi tous les apports, les privilèges du célibat et le transporter dans le mariage. Mais la Bible dit qu'un mariage qui dure, c'est d'abord quitter. Quitter le statut de célibataire. Lorsqu'on se marie, on doit faire le deuil du statut de célibataire. Quand tu étais célibataire, tu faisais comme tu voulais, tes copains t'appelaient et tu décidais d'aller comme tu voulais. Maintenant que tu es marié, tu ne peux plus faire cela. Mmh. Et il faut pas te plaindre, faut pas voir ça comme un poids. Non, c'est une grâce. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une épouse pour un homme a trouvé le bonheur. Et ça vient de l'Éternel. Donc, mais ce bonheur-là est bâti par le fait que lorsque tu rentres dans un statut, tu dois quitter l'autre. Eh bien, parfois, des mariages ne tiennent pas parce que certains n'ont pas quitté. Je parlais tout à l'heure du célibat, mais ça peut être aussi selon les cultures ou, par exemple, dans des cultures communautaires, comme des cultures africaines, où il y a une place très importante de la famille. C'est bien lorsque, quand on a grandi dans une famille, alors je parlais tout à l'heure africain, mais vous avez des cultures italiennes, européennes, on a aussi ça. Donc, c'est bien d'avoir une famille, c'est bien d'être dans une communauté, elle nous protège, on se sent bien, etc. Mais il y a un moment donné, il faut, comment dire, véritablement réguler cette place-là qu'on avait dans la famille. Donnons un exemple concrètement. Quand vous étiez chez vous, eh bien, vous obéissiez à vos parents, c'est eux qui gouvernaient leur maison, mais maintenant que vous êtes dans une maison, dans votre nouvelle maison, vous êtes dans une nouvelle entité sociale qu'on appelle la famille, qu'on appelle d'abord le couple et la famille avec les enfants. Et donc, vous ne pouvez pas laisser le gouverneur d'autrefois venir gouverner chez vous. Bien des fois, certains laissent culturellement la mère, le père. Souvent, ces personnes sont à distance, mais ils ont trop d'emprise. Et souvent, tu te dis, mais pourquoi mon mariage ne marche pas? Oh, regarde dans ta maison, regarde dans ton couple. Est-ce que tes parents sont à leur place? La Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère. Mais il n'est pas dit, tu les adoreras. Il n'est pas dit, tu les adoreras. C'est tu as quitté. C'est très important. Tu n'es plus un célibataire. Tu as quitté. Tu n'es plus celui qui était gouverné par tes parents. Tu es devenu une nouvelle entité. Mmh. Faut savoir que quitter est très important parce que chez les Hébreux, on ne peut pas contracter d'alliance sans quitter. Lorsque on parle chez les Hébreux du fait de faire alliance avec quelqu'un, eh ben, automatiquement, on quitte. Souvenez-vous, lorsque Abraham fait alliance avec Dieu, il lui dit quoi? Tu quittes ton pays, tu quittes la maison de tes parents, etc. et tu me suis. Jésus dira, celui qui veut me suivre, il doit quitter. S'il n'est pas prêt à quitter père et mère, il n'est pas prêt. Si tu n'es pas prêt à quitter ceux qui avaient trop de poids sur toi, certaines choses qui ne sont pas faites pour le mariage, alors à ce moment-là, tu n'es pas prêt pour le mariage. Deuxième verbe, s'attacher. S'attacher exprime le fait que c'est un acte volontaire, c'est un choix. Le mariage n'est pas quelque chose qu'on t'impose, et c'est toi qui décides. Alors, très important, dans l'idée de faire le choix, pourquoi? Parce que le choix va nous aider à comprendre une problématique, souvent qu'on n'arrive pas toujours et qui crée de la peur. Par exemple, il y a des gens qui ont du mal à s'engager parce qu'ils se disent, mais Oui, mais si je m'engage avec cette personne, qui me dit que je trouverai pas quelqu'un qui est encore meilleur, etc. Je vais te dire un grand secret. Tu trouveras un jour quelqu'un de meilleur. Mm-hmm. Quelqu'un de plus beau, de plus belle que ton époux, que ton épouse. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que quand tu t'es marié, tu as fait le choix. Tu as fait une alliance. Et le mariage, c'est entretenir cette alliance-là. Parce que lorsque tu es tout le temps à hésiter, ça ne marche pas. Tu dois t'attacher. Et voici comment on parle l'alliance du mariage. Elle dit, lorsque la tentation d'une autre femme, d'un autre mari vient, d'un autre homme vient dans ma vie alors que je suis marié, eh ben je décide de ne pas y céder, non pas parce que l'autre n'est pas beau, non pas parce que l'autre n'est pas plus intelligent ou plus intelligente ou plus belle, mais je ne cède pas parce que j'ai fait alliance avec cette personne. Et dans cette alliance-là, j'ai besoin que le Seigneur m'aide. Mmh. Et c'est quand tu te décides, la Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, s'attacher est quelque chose de très important. Proverbe 5 dit, « Bois l'eau de ta citerne, l'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi? Mm-hmm. » C'est-à-dire, voilà, maintenant que tu es marié, fais de ton épouse, fais de ton mari comme une quête. Cherche à quelque part le découvrir. Dans une relation, plus vous prenez le temps d'être ensemble, plus vous nourrissez la relation. Yeah. Plus vous prenez l'habitude d'être ensemble, un jour vous allez vous rendre compte du peu d'intérêt qu'il y a à être ensemble. Donc, quand la Bible dit, et il est dit même dans Proverbe 76, enivré de ses charmes, enivré. Ça veut dire, si tu dois être ivre de quelque chose, sois ivre du charme de ton époux, de ton épouse. Et d'ailleurs, dans cette idée aussi d'enivré de ses charmes, ça veut dire aussi que dans le mariage, mes sœurs, mes frères, il y a aussi toujours un rapport de séduction. Mm. Parce qu'il y en a d'autres, quand ils se marient, ils rentrent à la maison, c'est comme s'ils déposaient et disaient « Oh là, ça y est, j'ai accompli la chose la plus simple. » Non, tu dois entretenir le rapport de séduction. Ça veut dire que quelque part, même dans le couple, vous devez aussi entretenir ce qui fait que vous vous plaisez aussi. Et cela aussi physiquement. Alors bien sûr, il y a les yeux très spirituels qui disent « Non, mon frère, le plus important, c'est qu'elle aime le Seigneur, etc. » Hypocrite, c'est pas vrai. Tu vas pas te lever le bon matin, et si ta femme, elle est pas bien, après tu dis « Non, mais chérie, t'es pas belle là, mais le plus important, t'aimes le Seigneur. » Non. La Bible dit « Adam vit Ève. » Il vit Ève. Donc, il y a un rapport physique, il y a du visuel. Donc, entretenez cela. Romains 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 34-35, comme ça, nous dit la chose suivante. « Que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde » C'est choquant hein, qu'on n'a pas l'habitude des choses du monde. S'inquiète des choses du monde, et il est dit, des manières de plaire à son mari. Et plus loin, il est dit, des manières de plaire à sa femme. Ça veut dire que quand tu es marié, c'est bien de lire ta Bible, mais à un moment donné, il faut que tu sortes ta femme aussi et ton mari de la Bible. Il faut que vous sortiez ensemble. Pourquoi pas aller au cinéma? Vous avez des activités ensemble. Parce que c'est ça aussi les choses d'ici-bas. Ça veut dire que quand tu es marié, tu es bien sur la terre. Donc, quitter, s'attacher. Ce sont deux verbes importants pour un mariage qui dure. Mais le troisième verbe, il est dit, c'est devenir. C'est déjà devenir, c'est la conséquence des deux premiers. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut. Mm-hmm. Si tu t'attaches pas, tu ne peux pas devenir ce que Dieu veut. C'est la conséquence. Donc, c'est devenir. Mais c'est aussi quelque part une idée de dire que ce devenir-là, là, si tu avais le contrôle au travers des deux premiers verbes, eh ben, la suite... Il y a quelque chose qui relève de la grâce de Dieu. Et c'est là que, dans Ecclésiaste 4, il nous est dit, deux valent mieux qu'un. Car s'il l'entend, l'autre le relève. Et surtout, il y a ce verset qui dit, la corde a trois fils, ne se rompt pas si facilement. Il y a, vous êtes un couple, mais votre couple a besoin de la grâce de Dieu. Alors, il ne faut pas aussi exclure que dans ce passage-là, lorsqu'on parle de devenir, on sous-entend aussi toute la place de la sexualité dans le couple. Ça aussi, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que y a le couple doit aussi veiller à cette dimension. Tout à l'heure, je parlais de voyager, d'aller ici et là, de ne pas prendre soin l'un de l'autre. C'est pas bon. Si vous regardez de plus près, le temps nous manquerait, mais la sexualité a été établie dans le cadre du mariage. Pourquoi ? Parce que la sexualité est là pour consolider le mariage. Mmh. Lorsqu'on a une sexualité hors du mariage, on consolide quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Mmh. Et là, on est lié et on ne peut plus s'en sortir. C'est pour cela que lorsqu'on est dans le cadre du mariage et que la sexualité est vécue, elle est là pour créer un lien. L'apôtre Paul dira, celui qui s'attache à une prostituée forme comme une seule chair, pour dire que La sexualité crée des liens psychiques. Mmh. Et d'ailleurs, vous et moi, si on regarde de plus près, souvent la première expérience sexuelle est souvent une expérience qui a été marquante. Si elle a été faite dans un cadre difficile, eh ben souvent, ça nous marque négativement. Donc la sexualité a aussi sa place. Le mari comme la femme doivent prendre soin l'un de l'autre. Tu veux un mariage qui dure véritablement dans le Seigneur ? Médite sur ces trois verbes. Quitter, s'attacher et devenir. Si tu ne quittes pas, alors il n'y a pas de véritable alliance. Tu t'attaches pas. S'attacher, c'est faire des choix. Un choix que tu dois entretenir et véritablement vivre. Et devenir, ça dépend des deux premiers verbes. Il y a question de la grâce de Dieu, mais il y a aussi le fait de veiller l'un sur l'autre, notamment dans le domaine de l'intimité. Que Dieu vous bénisse.
Merci beaucoup. Merci, merci. Eh bien, dis donc, on quitte, on s'attache et on devient. C'est bon tout ça, c'est bon à mettre en pratique. Hein. On ne peut pas juste écouter. À mettre en pratique, tu as touché à pas mal de points super importants dans le cadre du mariage. Les fameux nœuds qu'on peut rencontrer et que si on les défait pas, on les dénoue pas, eh bien, ça va créer vraiment une tension et cette corde risque malheureusement de se rompre. Mmh. Donc oui, il y a vraiment une nécessité pardon, de mettre en pratique. Merci,
Amen.
Merci beaucoup Sosthène. On vous encourage à réussir dans tous les domaines de votre vie. Vous l'aurez compris, vous avez votre part à jouer dans la réussite de ce que vous allez entreprendre et Dieu a sa part. Et passer à l'action, c'est aussi des fois juste faire le premier pas. Décider, je commence quelque part, je fais ce premier pas et Seigneur, je te fais confiance pour m'accompagner dans les pas qui viendront juste après. Demain, on se retrouve, on va parler d'un thème, je pense qu'il va beaucoup vous intéresser. Qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est une grande question. Il y a beaucoup de confusion autour de ce thème. Eh bien, demain, Sosthène, tu vas pouvoir démêler tout ça puisque ce sera la question à laquelle tu répondras dans la rubrique Réponse d'experts. Et on sera également sur le thème de la miséricorde de Dieu. Donc, ne manquez pas, c'est une émission équilibrée qu'on vous propose demain. On se retrouve donc dans Bonjour chez vous.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. La tempête a su que... que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie, la symphonie des éclairs.
5h30, 6h30, Cocorico
avec Innocent.
Like all the songs have probably all been sung, but I wanna bring you something true, something that moves you. I don't have all the words to tell you how much you're worth, but I wanna bring you something.
Smile on my father's face.
days I'm so afraid, I'm so consumed with worry. Thinking about the destination, can't enjoy the journey. Praying hard, but in my heart I wonder if you heard me. Just as I start to give up hope, I feel your spirit stirring. When the fears arise in me, I will lift my eyes to see. I look to you when I'm staring at my mountains, scared that I can't move them. Oh God, I look to you when I wander in the valley. I know that you are with me, leading me to the truth. In all that I do, I look to you. There are nights I lie awake, just thinking how I failed you. Focused on what I don't have and who I can't compare to. But then you crash into the room and offer me a rescue. Lift my head and tell me that your mercy has made me new. And finally I believe when I lift my eyes to see. Arise in me, I will lift my eyes to see. I look to you when I'm staring at my mountains, scared that I can't move them.
h 30, 6h30, Cocorico
avec Innocent. Parole du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai dite. Jean 15, verset 3. Refusez la défaite. Bonjour à tous. La parole de Dieu est comme une ordonnance du médecin. Nul besoin de comprendre le fonctionnement d'un médicament, il suffit de le prendre. Quand on se nourrit régulièrement de la Bible, quelque chose d'étonnant se produit. La tentation perd peu à peu son pouvoir au profit d'un sentiment de victoire. Chaque fois qu'un passage biblique devient clair, le désir pour la parole augmente. Mais encore faut-il la lire, même sans envie, même si l'on ne pense pas avoir le temps, même si l'on croit ne pas pouvoir en retirer grand-chose. La Bible dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté avec succès. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Je n'ai pas besoin d'éprouver certaines sensations pour savoir que la parole agit en moi. En effet, la lecture de la Bible me protège du péché, tandis que le péché m'empêche de la lire. Après sa liaison avec Bathsheba, David a écrit: « Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, verset 11. Et Jésus a dit: « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Êtes-vous lassé de vivre dans la défaite? alors il convient d'immerger chaque jour votre esprit dans la parole de Dieu. Laissez-la couler sur vous jusqu'à ce que vous soyez débarrassé des traces du péché et de la chair.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. J'ai pas trop d'amis, regardez en classe, pas d'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire, c'est pas le pire quand la pause arrive. Je ne suis pas tranquille, il faut que je m'éclipse. Ou alors, accuser les coups dehors. Il faudra que je cours. Je veux que l'on m'écoute, plus de doutes pour m'en sortir. Je dois tenir et construire mon futur. Partir à la conquête d'une vie moins dure. Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières. Pour connaître l'amour et le monde, il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Il faudra que je cours. Respirer dans ce monde parmi faux. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi faux. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi faux. Il faudra que je coule. Pour ne pas qu'on m'efface. Faites-moi de la place. Juste un peu de place. Pour ne pas qu'on m'efface.
Aimez-vous vous tromper? Drôle de question, je vous l'accorde. Disons que parfois, par accumulation de fatigue, surmenage ou période de stress, on peut connaître ce que l'on appelle la loi des séries. Non pas qu'on le veuille, hein, mais malgré nous, malgré toute la bonne volonté, malgré notre vigilance et malgré nous, les erreurs s'enchaînent, qu'elles s'apparentent à de simples boulettes, de regrettables confusions ou incompréhensions, voire pire, irrémédiables décisions pour lesquelles il est impossible de faire marche arrière. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quand ça ne veut plus, ça ne veut plus. Ryan Leek, auteur à succès, coach en développement du leadership et conférencier transformationnel, a dit « L'échec est un événement, pas un trait d'identité. Ce n'est pas qui vous êtes, c'est quelque chose qui est arrivé. » Bien dit. Tu n'as pas à laisser un malheureux épisode définir l'intégralité de ta vie, Johan. Et si aujourd'hui, je ne laissais pas le découragement me gagner? Même quand cela semble impossible, il reste toujours une possibilité.
Écoutez, c'est Phare FM.
Every day is a gift from God. Even the ones that have left their scars. So don't waste another moment. Cause you don't know what you got until it's gone. Yeah. I'm not gonna let one pass me by. No. I know I'm living up
borrowed time.
You said, but now that you're gone, I'll be okay. I'm gonna drink all my sadness away. Tonight I won't be crying on the dance floor. I ain't got no time for no more sad songs. So let's raise a glass to all the past ones. But I won't be crying on the dance floor. Tonight I won't
expérimenter la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus.
La deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. Peu de temps après avoir écrit 1 Thessalonicien, Paul reçoit d'autres nouvelles concernant les chrétiens de Thessalonique. Et selon ces nouvelles, non seulement les problèmes qu'il avait abordés dans sa première lettre ont continué, mais ils ont surtout empiré. Les persécutions se sont intensifiées au point de désormais semer confusion et terreur dans l'esprit des chrétiens de Thessalonique, à la seule mention du retour de Jésus. Paul envoie donc cette courte lettre divisée en 3 sections qui traitent des 3 problèmes de cette église. Paul commence par leur donner de l'espoir dans cet épisode de persécution permanente. Ensuite, il les éclaire sur ce que le jour du Seigneur sera réellement. Et enfin, il donne un avertissement très spécifique à l'endroit des fainéants, ceux qui refusent d'occuper des emplois normaux. Chacune de ces sections se termine par une courte prière de clôture. Paul commence par une prière d'action de grâce pour la fidélité et l'amour continu des Thessaloniciens et en particulier pour leur endurance. Il a appris que leurs voisins grecs, romains et peut-être même les juifs ont intensifié leur persécution sur ces chrétiens.
Phare FM vous a présenté Bible Project. Retrouvez cet épisode en intégralité et en vidéo sur bibleproject.com/français.
Écoutez, c'est Phare FM.
Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle, la douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène, le plus beau des corps de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine, mais ses désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le
un game, là tu t'engages. Quand tu m'aimes, faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel.
T'es belle, rebelle, je suis immortel. C'est toi qui décèles tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction, une seconde avant l'action.
Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce carrousel.
Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel.
Oui, je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois, j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel.
Phare FM.
I got family for miles, running up the mileage. Made it through some trials and some tribulations. Now me and the team out here celebrating. Yeah, this is where we come from. Yeah, we did it.
Calling on your mighty name. Whoa, can you hear me say? I'm slipping and I need your grace to bring my heart back home. I'm calling on your mighty name. Whoa, can you hear me say? I'm slipping and I need your grace to light the path and bring my heart.